107.9.
Soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 7 mars. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les civils fuient sous les bombes devant l'avancée des forces russes en Ukraine. Dans un instant, nous sommes avec nos envoyés spéciaux dans les faubourgs de la capitale ukrainienne. Après Anaïs, les autres titres.
La France achemine de l'iode en Ukraine pour faire face aux risques nucléaires. Verdict mercredi dans le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les trois hommes jugés persistent à dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et puis on rêve d'acrobatie sur fond d'ombre chinoise, le cirque contemporain de retour en Normandie après 2 ans d'absence.
Invité, rendez-vous de France Inter ce matin à 7h15, le Zoom avec un reportage rare dans une mine de nickel au Guatemala. À 7h50, avec vous, votre invité Léa.
Un entretien exceptionnel avec la patronne d'Engie, groupe du CAC 40. Alors qu'on ne parle que du gaz russe, peut-on se passer de ce gaz russe? Faut-il arrêter d'en acheter? Quelles conséquences pour nos factures de chauffage? Beaucoup de questions à poser à Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie.
À tout à l'heure Léa, à 8h20 on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec l'historien et directeur de l'IFRI Thomas Gomard et l'écrivain et cinéaste Jonathan Little. On parlera de l'Ukraine évidemment, vos questions, le standard est ouvert, vous attend au 01 45 24 7000.
France Inter.
Combien de jours encore avant l'assaut sur Kiev? La capitale ukrainienne voit l'étau se resserrer, combats intenses dans sa périphérie. Hier, un tank russe est entré dans les faubourgs ouest de Kiev à Irpin, une ville de 60 000 habitants sous un déluge de feu depuis samedi. Les civils fuient en masse. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Ouaman.
C'est un flot ininterrompu de civils qui fuient à pied la ville d'Irpin aux portes de Kiev.
J'ai laissé mes parents derrière moi. J'ai voulu les amener de force, mais mon père m'a repoussé. Je n'ai pas insisté.
Nicolas est avocat. Il a marché longtemps sur cette route au milieu d'une forêt avant d'atteindre cette position des forces ukrainiennes.
Ceux qui sont restés sont peu nombreux car il y a constamment des bombardements sur les zones résidentielles.
Cette bataille qui fait rage à Irpin, Alexis l'a traversé. Il est parti de Boutcha, autre ville assiégée par les Russes, plus au nord, et a parcouru à pied 22 km avec son épouse Tatiana et leur fille de 3 ans à peine.
Et elle n'a pas pleuré une seule fois. C'est une vraie Ukrainienne. Pas une seule fois, même quand nous traversions les barrages. Quand nous marchions sous les bombes au milieu des chars et des blindés. Elle est plus courageuse que moi.
Je n'en reviens pas d'avoir pu quitter cet enfer de bombes. On a même vu passer les chars russes alors que nous étions en train de marcher avec ma fille dans les bras.
En pilonnant sans arrêt cette ville d'Irpin, l'état-major russe veut faire tomber ce dernier verrou pour s'ouvrir la voie vers la capitale. Irpin, Gilles Gallinaro, Omar Ouaman, France Inter.
Et Moscou annonce à l'instant ouvrir des couloirs humanitaires dans une heure pour évacuer les civils de Kiev, de Kharkiv, de Soumy et de Mariupol, car l'autre front, c'est celui du sud et des rivages de la mer Noire. Mariupol toujours assiégé et sans doute de manière imminente la très grande ville d'Odessa, 1 million d'habitants, poumon économique, patrimoine historique et culturel qui risque d'être bombardé, selon le président ukrainien. Alors faut-il croire Vladimir Poutine quand il dit ne pas vouloir attaquer des centrales nucléaires? Dans la centrale de Zaporijjia prise par les Russes vendredi, la direction est désormais sous les ordres des forces russes et les opérateurs presque injoignables. Le chef de l'AIEA se dit profondément inquiet. Hier soir, Virginie Pironon, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé que la France envoyait de l'iode à l'Ukraine.
2,5 millions de doses d'iode pour pouvoir parer à tout danger. Précision hier soir de l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Poncin. L'objectif, protéger la population sur place, car l'inquiétude en effet, après le bombardement notamment vendredi de la centrale de Zaporijjia par les Russes, se fait de plus en plus forte. Hier, la question de la sécurité de ces sites très sensibles a d'ailleurs été au cœur des échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, au premier rang même des différents sujets abordés. Le président français a insisté, les normes de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, doivent être respectées et surtout, aucune offensive ne doit être lancée contre les centrales. En aucun cas, elles ne doivent être considérées comme des prises de guerre. De son côté, Vladimir Poutine a répondu qu'il n'est pas dans ses intentions d'attaquer les sites nucléaires et s'est même dit prêt à un dialogue entre l'AIEA, l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique se réunit en Autriche, à Vienne. La France dit attendre des propositions sur les suites à donner.
Il y a 4 centrales nucléaires en activité en Ukraine et des dépôts de déchets comme Tchernobyl. En Russie, malgré les intimidations, des protestations ont lieu quotidiennement. Manifestations hier dans au moins 65 villes du pays jusqu'à Novosibirsk. Sans autorisation, plus de 4600 personnes arrêtées, dont près de la moitié rien qu'à Moscou.
Il est 7h05, l'Ukraine où la rentrée scolaire du lycée français de Kiev devait avoir lieu aujourd'hui.
Elle est repoussée naturellement. Le lycée accueille 500 élèves de la maternelle au lycée et leur prise en charge tourne au casse-tête à Jra Mohammad.
Au lycée français Anne de Kiev, 20% seulement des élèves ont la nationalité française, sinon la majorité vient d'autres pays comme Cosmo Billing. Ce Suédois de 17 ans a quitté la ville un peu plus tôt que prévu avec sa famille.
Une semaine avant l'invasion, le ministère extérieur de la Suède nous a demandé de rentrer en Suède et donc nous avons fait nos valises avec juste quelques habits et les livres scolaires pour étudier pendant les vacances. Et je m'inquiétais pas tellement parce que je croyais qu'on allait retourner. Mais maintenant, bien sûr, ce n'est pas du tout sûr qu'on pourra retourner. Donc c'est juste une situation très inquiétante. Oui.
Comme lui, certains camarades ont pu regagner leur pays d'origine. D'autres sont retournés en France ou sont encore bloqués en Ukraine ou dans les pays autour. Ça vaut aussi pour certains enseignants. Impossible donc d'organiser une rentrée cette semaine. Ce sera au mieux lundi prochain et en distanciel. De quoi stresser encore un peu plus le jeune Cosmo.
Moi, j'espère vraiment qu'on va savoir comment le bac va se passer parce que je dois quand même continuer mes études à fond pour le bac. Pour l'instant, je n'ai aucune idée où je vais passer mes épreuves, par exemple.
Les familles qui préfèrent le présentiel pourront tout de même inscrire leur enfant dans un établissement scolaire de la métropole ou dans un lycée français si elle reste à l'étranger.
Devant l'incertitude que fait planer la crise, les cours du pétrole continuent de flamber. Le Brent a frôlé les 140 dollars. L'or atteint des sommets et les bourses asiatiques plongent à nouveau moins 3 à Tokyo et à Hong Kong. En revanche, un secteur profite en bourse, celui de l'armement. Thales a gagné 12% la semaine dernière, plus 8% pour Dassault Aviation. Dopé par les annonces d'Emmanuel Macron de revoir à la hausse le budget défense, le secteur, Louis Fontaine, se dit prêt.
Du côté des professionnels de l'armement, on anticipe déjà de nouvelles commandes dans les années qui viennent, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle. Les fabricants d'avions de combat s'attendent à être de plus en plus sollicités. Chez Dassault Aviation, le directeur général Éric Trappier se dit prêt à s'adapter.
C'est compliqué quand on augmente les cadences, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est quand on n'a pas de commandes. Donc on préfère la difficulté de trop de travail que la difficulté de pas de travail. Donc on saura honorer ses commandes.
Tous les scénarios sont sur la table, y compris ceux de conflits majeurs qui mobiliseraient les armées françaises et européennes. Le patron de Dassault Aviation se dit convaincu du rôle que son entreprise aura à jouer dans les prochaines années.
Effectivement, nos armées disent, dans une guerre de haute intensité, on va perdre des avions. Donc le nombre d'avions redevient un sujet. Il y a non seulement les avions, mais il y a les armements. Donc on est toujours très mobilisés quand une crise arrive et quand nos autorités nous demandent de réagir.
Voté en 2019, la loi de programmation militaire prévoit à ce stade une enveloppe budgétaire de 300 milliards d'euros jusqu'en 2025.
Et toujours dans le domaine de la défense, le Danemark fait sa révolution copernicienne. Après 30 ans de refus, les Danois envisagent de rejoindre la politique de défense de l'Union européenne et d'augmenter les crédits militaires.
Il est 7h08, le premier déplacement aujourd'hui du candidat Emmanuel Macron.
À Poissy, dans les Yvelines, chez l'un de ses proches, le maire ex-LR Carl Olive rencontre avec les habitants prévus à 18h30. À midi, le Conseil constitutionnel proclame officiellement la liste des candidats. Ils seront auditionnés ou leurs équipes ce soir par le monde associatif. 20 millions de bénévoles en France, 1 800 000 salariés qui demandent le développement du service civique pour les jeunes et un vrai soutien au bénévolat. Claire Toury est la présidente du mouvement associatif.
Le quinquennat, il a commencé par la suppression brutale des emplois aidés. Donc ça a été extrêmement violent pour le monde associatif. Au moment de la crise sanitaire, les associations ont été en première ligne. On a bien vu que quand elles ne pouvaient pas agir, ça avait des conséquences parfois désastreuses, notamment pendant le premier confinement. Ce que nous, on attend du prochain quinquennat, c'est une relation de confiance beaucoup plus importante que celle qu'on a vécue jusqu'ici. On a besoin des pouvoirs publics pour faire que ce soit pas toujours une usine à gaz de s'engager ou que surtout ça ne soit pas le privilège de quelques-uns parce qu'ils sont bien nés ou parce qu'ils ont la chance d'avoir un boulot qui leur permet d'être très souple. Moi j'ai l'impression que la campagne elle va vraiment commencer maintenant, donc on va voir ce que les prochaines semaines nous réservent.
Claire Toury au micro de Claire Chaudière. Les derniers jours du procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray au cours duquel le prêtre Jacques Hamel fut assassiné. Aujourd'hui, place aux parties civiles puis aux réquisitions. Les assaillants abattus par la police, ce sont 3 membres de leur entourage qui sont jugés avec toujours cette même ligne de défense, Ariane Grissel. Ils n'étaient pas au courant du projet d'attentat.
Si ce procès éclaire les parties civiles sur une chose depuis deux semaines, c'est sur la facilité avec laquelle des hommes, jeunes, à l'origine non pratiquants, ont pu intégrer en quelques mois ce que l'on appelle la djihadosphère, sa propagande en ligne et ses messageries cryptées. Mais pour le reste, pas de changement dans les déclarations des mises en cause. Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné, ou les enfants de Guy Coponnet, ce paroissien gravement blessé, ont pu entendre les demandes de pardon de deux des hommes dans le box, mais tous les accusés insistent. Certes, ils ont été en lien avec les terroristes, mais non, ils n'ont rien vu venir. Je ne savais pas, dit l'un. J'en peux plus qu'on dise que je savais, dit un autre. Les avocats généraux ont rappelé à chacun de ces hommes qu'ils ne sont pas poursuivis pour complicité. Autrement dit, aucun n'est soupçonné d'avoir aidé en connaissance de cause les assaillants. Tous trois comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes criminels, une infraction que le président explique à l'un des accusés comme la conscience d'appartenir à un groupe avec la volonté de passer à l'acte. Des faits pour lesquels, mercredi, ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion.
Lui a été mis en examen hier soir pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, l'agresseur d'Ivan Colonna. Hier, des milliers de personnes venues de toute la Corse ont défilé à Corté derrière le mot d'ordre « État français assassin ». Manifestation commencée dans le calme, terminée par des émeutes face aux forces de l'ordre. Plus qu'une semaine de masques obligatoires et de passes vaccinales, la recrue du Covid se confirme en France. 50 600 nouveaux cas en moyenne sur une semaine. Allez, de la voltige aérienne, des clowns contemporains du jour. Jonglage avec une grande chienne blanche. Le festival Spring, le plus grand festival de cirque en France, vient de débuter en Normandie. Et le bonheur de retrouver le public après l'annulation de la pandémie à une version 2021 numérique, ça le comble ce week-end à Cherbourg, Stéphane Capron.
On reprend le goût au spectacle et ça fait plaisir de voir les artistes en vrai, quoi. Ça change un peu, puis voir les gens sans masque aussi, ça fait du bien.
Après deux ans d'absence et de gestation, les artistes de cirque peuvent enfin présenter leurs créations. Dans Play Replay, l'un des spectacles d'ouverture du festival, Xavier Lavabre et les membres de la compagnie The Patrack racontent les coulisses du tournage d'un film d'action sur un ton burlesque.
C'est complètement un spectacle de cirque. Nous, on avait envie de remettre en tout cas le cirque vraiment au centre d'un scénario. C'est un spectacle complètement muet. Alors voilà, c'est un peu le challenge de cette compagnie de raconter d'histoires juste avec nos corps.
Des acrobaties sur fond d'ombre chinoise, du main à main, de l'acrodance, de la roussire. Il y avait de quoi réjouir les spectateurs.
Ma fille, elle m'a dit « Mais ça, maman, c'est pas du cirque ». Ben, en fait, si, c'est du cirque contemporain, c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de l'humour, c'est du mime, c'est super chouette, on a adoré.
Ben, je suis sortie en chantant parce qu'on a la musique dans la tête et plein d'images magiques, super.
Les membres de The Patrack font du cirque avec les codes du cinéma, une compagnie complètement dans l'air du temps qui montre la vitalité débordante de la nouvelle génération du cirque français.
Et le festival Spring de cirque, 60 spectacles, 60 lieux, c'est jusqu'au 10 avril en Normandie. Et puis, ma langue a fourché, vous aurez rectifié de vous-même, on parle bien de décrue du Covid.
Voilà, c'était la bonne nouvelle. Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes, reportage rare aujourd'hui dans une mine de nickel au Guatemala.